Bonjour. Je voulais juste dire trois mots au nom du festival, du FIFIB, pour remercier Emmanuel Carrère d'être présent, d'être venu nous présenter ces deux films, et puis de venir discuter si aimablement de cinéma avec nous. Ça fait longtemps qu'on veut l'inviter, donc on est très fiers qu'il soit là. Voilà, merci.
Bah écoutez, je vous remercie aussi. Je suis très heureux d'être l'hôte du festival. C'est la première fois que j'y viens. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Et je vous remercie d'être venu. Et je remercie mon ami N. Tebin qui sera mon interlocuteur ce soir. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons commencé ensemble il y a à peu près 40 ans dans la revue de cinéma Positif, et nous sommes restés des amis depuis ce temps, et tous les deux dans une amitié de cinéphile fervent. Voilà.
Alors, je vous rappelle évidemment qu'il va y avoir une signature après. Hein. Donc, Emmanuel a une actualité littéraire et cinématographique. On va juste dire un mot de ce volume qui t'est consacré, en fait. Je sais que ça ne se fait pas du tout de tutoyer en fait, les interlocuteurs. Ça ne se fait pas. Et on a déjà essayé avec Emmanuel de se dire « vous », comme ça, dans des rencontres publiques. Et ça sonnait tellement faux qu'on a très vite renoncé. Parce que ça obligeait à se reprendre tout le temps. Donc, je vous prie de nous excuser pour cette licence à la bienséance des rencontres publiques. Cet ouvrage collectif qui était consacré aux éditions POL, a priori, c'est un ouvrage sur Emmanuel Carrère. C'est un gros pavé. Hein. Il y a combien de pages
comme 600.
600 pages. Mais ça n'est pas uniquement 600 pages sur Emmanuel Carrère. Sur les 600 pages à propos d'Emmanuel Carrère, il y en a un tiers qui sont d'Emmanuel Carrère. C'est-à-dire que dans ce livre que vous allez, je suis sûr, acquérir en masse, eh bien, il y a l'équivalent sous la plume d'Emmanuel Carrère du manuscrit de la moustache, en gros.
Oui, hein, oui, pratiquement. Oui.
Vous voyez, c'est donc aussi...
Et plusieurs de ces textes inédits sont des textes liés au cinéma, directement, c'est-à-dire que plusieurs sont des projets de films, disons qu'il y a plusieurs étages dans un projet de film, celui le plus abouti étant un scénario, le plus sommaire étant un synopsis. Entre les deux, il y a diverses étapes qu'on appelle un traitement, par exemple, ou une continuité, des choses comme ça. Ça veut dire que, disons, un scénario, c'est vraiment un truc avec les dialogues, tout ça. Un traitement, c'est... on raconte ce qu'il y a dedans, quoi, de façon moins détaillée. Donc, il y a plusieurs traitements et généralement, quand ils sont publiés, c'est parce qu'ils n'ont pas abouti.
Oui, mais aussi parce qu'ils sont publiés aussi parce que tu en as autorisé la publication, donc tu les revendiques d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Non. Et quand il s'agit au fond de projets qui n'ont pas abouti, mais il y avait un regret. J'aurais aimé qu'ils aboutissent, et je suis évidemment heureux que, à défaut d'avoir abouti, il garde une petite existence sous cette forme-là, sous la forme de la description de ce que ces films ou épisodes de séries auraient pu être.
Alors, c'est peut-être non conventionnel, mais je trouve que c'est une assez bonne entrée pour parler de tes rapports en fait avec le cinéma, puisqu'on est quand même ici dans le cadre d'un festival de cinéma, donc on va pas refaire toute la carrière et l'itinéraire d'Emmanuel Carrère, écrivain, mais on va évidemment y faire très souvent référence par le biais du cinéma. Alors, par exemple, mon préféré dans ces inédits est un traitement, mais qui ressemble en fait à une nouvelle et qui s'appelle La Colonie. J'aimerais que tu allèches un peu notre public, puisque c'est un texte que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé tellement carrérien, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais que tu aurais pu revendiquer comme une œuvre littéraire, ce qui est quand même très rare pour les scénarios. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un... Alors justement, non, c'est d'une sorte d'un traitement, comme on dit, c'est-à-dire un scénario non dialogué qui est assez long, qui fait une trentaine de pages, et qui est... Alors, à vrai dire, tu disais que ça pourrait être une nouvelle. C'est adapté d'une nouvelle qui existe déjà, qui est une nouvelle d'un écrivain américain assez peu connu, mais et qui mériterait de l'être davantage, qui s'appelait John Collier, C-O comme un collier, C-O-L-I-E-2-L-I-E-R. Et alors, cette nouvelle qui est très courte, hein, que j'ai adaptée très, très librement, mais en gardant la situation de base. La situation de base, c'est l'histoire, c'est un type qui est un peu voilà, à la dérive, qu'il a été chassé de chez lui, qu'il est presque sans domicile fixe, ou qui vit chez une copine qu'il a virée. Et en fait, il traîne dans un grand magasin, du genre Samaritaine, chose comme ça, un vraiment grand magasin. Et à l'ancienne, hein, pas un supermarché.
À la Zola, en fait.
Oui, c'est ça, un de ces grands magasins avec beaucoup d'étages, voilà. Et il, à un moment, il est au rayon literie, truc comme ça. Il se dit, au fond, c'est confort. Enfin, il s'allonge sur un matelas. Il dormirait bien, évidemment. Il se fait chasser, mais il se dit, mais au fond, ça serait très bien de dormir là. Ça a l'air très confortable. Et donc, il arrive à se faire enfermer dans le magasin. Il se fait enfermer dans le magasin. Tout le monde disparaît. Il est là. Il s'allonge sur les matelas. Puis il se dit qu'il va au rayon des vêtements. Il essaye un costume. Enfin, disons, il fait ce truc un peu d'enfant d'avoir tout à sa base, comme ça, à portée de la main, et puis il peut prendre ce qu'il veut. Et à un moment, il y a faisceau d'une lampe torche, et c'est un des gardiens de nuit qui vient faire sa tournée. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, comme il est au rayon de vêtements, il se fige dans la position d'un mannequin.
Comme dans un film de Charlot, en fait.
Exactement, comme dans un film de Charlot. Et il regarde passer le veilleur de nuit en se disant, dès qu'il aura continué, ben je reprends. Et puis, il regarde le mannequin d'à côté et il s'aperçoit que le mannequin respire. Et que, en fait, l'autre mannequin et puis les autres mannequins sont des gens vivants comme lui. Et donc, maintenant, une fois donné cet argument de départ, qui, je vous répète, n'est pas de moi, tout le truc se développe, c'est-à-dire qu'il découvre que dans ce grand magasin, il y a une véritable colonie d'habitants clandestins qui y habitent depuis des années ou des années. Il y a même des gens, il y a une jeune fille avec qui il a une histoire d'amour, tout ça, qui est née dans le magasin, qui n'a jamais connu autre chose.
Depuis des générations.
Voilà, depuis des générations. Enfin bref, on a construit ça ensuite. Quand je dis « on », c'était un scénario que j'avais écrit pour et en partie avec un réalisateur qui s'appelait Laurent Perrin. Je dis « il s'appelait » parce qu'il est mort il y a quelques années. Qui avait fait deux films que j'aimais bien. Et à vrai dire, ce projet, on n'est pas arrivé à le faire parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était un projet très cher, quoi, qu'il fallait un grand magasin dans lequel tourner. Donc ça, voilà, on n'était pas ni lui ni moi en mesure de faire monter un projet comme ça. En tout cas, on avait construit ça, vous savez, un peu comme un film de vampire, un truc comme ça. Voilà, c'était vraiment une sorte de film fantastique. Et au fond, j'étais content d'avoir retrouvé ça et de me dire qu'à défaut que ce film ait existé, au moins d'en avoir cette espèce de fantôme, quoi, qui était ce traitement.
Alors, il y a deux autres scénarios ou traitements dans le livre qui ressemblent plus à l'écrivain de la moustache, en fait. Peut-être tu pourras en dire juste un mot.
Bien sûr. Alors ça, c'était... à un moment, il y avait eu un projet de série télévisée, mais je vous parle des années 80, hein, c'est-à-dire que à ce moment-là, les séries n'étaient pas du tout une chose aussi importante, aussi répandue, aussi regardée que là, et c'était un projet de... Alors, au fond, d'histoire un peu fantastique, un peu comme à l'époque, ce qui existait, c'était la quatrième dimension, Twilight Zone. Mais aujourd'hui, ça pourrait
être Hitchcock présente.
Ou Alfred Hitchcock présente. Ouais. Aujourd'hui, ça pourrait ressembler à des séries comme Black Mirror ou des choses pour ceux qui ont vu ça. Donc, c'était des séries pas tant fantastiques, mais dans le sens, vous voyez, de léger décalage par rapport à la réalité, d'une espèce de grain de sable qui fait gripper la mécanique, qui fait que tout à coup, on passe d'un monde familier à un monde tout à coup étrange et crépusculaire. Et voilà, il y avait deux histoires que j'avais faites comme ça pour qui était destiné à cette série qui n'a pas davantage vu le jour. Donc, si vous voulez, c'est par cette partie-là de ce volume est un peu un cimetière de projets inaboutis. Mais voilà, je pense qu'ils sont, enfin, ou j'espère qu'ils sont intéressants ou amusants à lire sous cette forme, un peu comme on pourrait lire des nouvelles.
Alors, c'est intéressant que tu parles de la série parce que ça me mène, on vient petit à petit au cinéma, mais on passe par Emmanuel Carrère, scénariste. Moi, quand je t'ai connu, d'abord critique à Positif, puis romancier, à chaque fois, je te demandais, mais tu n'as pas envie de devenir scénariste ou cinéaste, et puis tu me disais non, et à des moments on se perdait un peu de vue et puis on se revoyait, et un jour tu m'as dit mais maintenant je suis scénariste pour la télévision, et donc tu as écrit beaucoup de fiction télé, ce qui s'appelle, qu'on peut appeler des unitaires, même si parfois ils étaient regroupés en collections, et tu as aussi participé à l'écriture d'une série, qui est une série qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les Revenants. Mais il semble qu'il y a un format qui était très bien convenu parce que tu as perpétué les unitaires télé. Et en revanche, les revenants, tu as raconté d'ailleurs dans Le Royaume comment tu avais démissionné de ce projet. Comment est-ce que tu as fait la part des deux choses ? C'est pour un même média, comme on dit, qui est la télévision. C'est deux styles différents d'écriture scénaristique ou de...
Oui, alors, ce qu'on appelle voilà, des scénarios unitaires, j'ai commencé à en écrire... Quand j'avais une trentaine d'années, je dois en avoir écrit une bonne vingtaine. Beaucoup d'entre elles étaient des adaptations littéraires. J'ai adapté plusieurs romans de Simenon. J'ai adapté Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. J'ai adapté depuis plusieurs années, parce que je continue de temps en temps ce travail, j'ai adapté plusieurs romans de Fred Vargas. Voilà. Mais alors, c'est un travail très... très, très intéressant, avec un côté, il y a un côté assez technique, c'est vraiment une espèce d'artisanat qu'on apprend petit à petit. C'est malgré tout, ce sont des projets moins ambitieux qu'une série, parce qu'une série, il s'agit vraiment de faire surgir de terre un univers, un scénario unitaire. Vous voyez, généralement, dans mon cas, on adapte un livre, ça se fait, on connaît les règles à peu près. Une série, c'est un univers dont il s'agit d'inventer les règles. Il s'agit de faire fonctionner un univers, de le créer. Et au fond, cette histoire, je ne sais pas si certains parmi vous ont vu la série Les Revenants. Je trouve, et je ne suis pas le seul, que c'est vraiment une série remarquable. Enfin, c'était vraiment une réussite de la série fantastique, pour une espèce de lieu commun veut que les Français soient pas doués pour le fantastique, que ça soit un genre surtout anglo-saxon. Mais là, ça me semblait être une très grande réussite. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme le rappelle Bean, c'est qu'à un moment, je me suis barré au milieu de la première saison pour des raisons... Enfin, j'en ai gardé des regrets, hein, parce que c'était passionnant à faire et que j'avais une remarquable entente avec le réalisateur qui était éco-scénariste de la série.
Showrunner, oui.
Et showrunner, comme on dit, qui s'appelle Fabrice Gobert, qui est un type à la fois de très grand talent et avec qui on a eu une relation de travail très très heureuse et très fructueuse. À un moment, voilà, c'est devenu très 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 compliqué avec la production, avec le diffuseur Canal+. J'avais l'impression qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient, qu'ils nous trimbalaient à U et à Dia, que on nous demandait une chose et le lendemain son contraire. Bref, à un moment, je me suis dit, je vais pas y passer toute ma vie, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai lâché l'affaire, mais vraiment à regret, et en continuant, et en trouvant le résultat formidable, et en ayant une vraie tristesse d'être pas resté jusqu'au bout, quoi. Mais ça a été vraiment trop lourd, quoi.
Et est-ce que tu revendiques dans Les Revenants tels que tu les as vus ta part de... Enfin, est-ce que tu penses que ça a été fidèle au travail que tu
as fait? Oui, complètement. Voilà. Enfin, au travail, à notre travail, oui, à votre travail de Gobert et moi, on a vraiment, on a vraiment écrit. J'ai écrit avec lui les quatre premiers épisodes, oui. Et on avait préparé les quatre suivants, mais je les ai pas entièrement écrits. Et alors, c'est une série, cela dit, dont l'argument, je ne sais pas qui l'a vu, qui ne l'a pas vu, mais l'argument est d'une force extraordinaire. L'argument, c'est des morts reviennent. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est traité comme un film réaliste.
Pas comme un film de zombies. Quoi.
Pas du tout comme un film de zombies. C'est-à-dire que on se dit, imaginons que cette chose impossible et terrible arrive, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait au sein d'une famille où, par exemple, il y a une fille qui est morte dans un accident de car scolaire, elle avait 12 ou 13 ans, et puis elle revient 2 ou 3 ans après. Quelles sont les réactions de ses parents, de sa sœur qui se trouve en plus, c'est un raffinement que nous avons trouvé, c'est sa sœur jumelle, c'est-à-dire que la jumelle, elle a grandi, c'est-à-dire qu'elles avaient 12 ans toutes les deux au moment de la mort de la première. Elle a 14 ans, l'autre, elle a toujours 12 ans. C'est-à-dire déjà, ça posait un problème de casting vraiment insoluble, enfin, qui a été résolu, mais comment est-ce qu'on trouve 2 jumelles qui ont 2 ans de différence ? En tout cas, l'argument de la série est. On s'est aperçu que c'était une mine de.
Qui vient d'un long métrage d'ailleurs, hein, qui vient du long métrage de Robin Campillo.
Est longue, ouais. Effectivement, c'est à l'origine un long métrage de Robin Campillo qui a depuis fait, entre autres choses, 120 battements par minute, qui a eu le succès amplement mérité qu'on sait. Le film Les Revenants, qui était un film passionnant, ses productrices avaient le sentiment malgré tout que quelque chose était resté inabouti dans la promesse, encore une fois dans cette promesse si forte, ou en tout cas ils avaient le sentiment qu'on pouvait tirer davantage ce fil, en quoi elles avaient eu une remarquable intuition. Mais ça a été vraiment long à mettre en place. Il y avait déjà eu une autre équipe de scénaristes qui avait travaillé. Enfin, en gros, Gobert et moi, on était un peu l'équipe de la dernière chance. Et donc, on est parti là-dessus. Et au fond, moi, j'ai l'impression que mon apport là-dedans, ça a été de constamment ralentir les choses. La tendance naturelle, enfin, ou disons de plus en plus poussée au cinéma ou dans la série, c'est d'accélérer.
Surtout dans les séries.
C'est d'accélérer de peur que les gens s'ennuient.
De peur qu'ils zappent, en fait.
Voilà, exactement. Ouais. Or, on s'est rendu compte, enfin, c'est ça que vraiment je pense que j'ai apporté là-dedans, c'est de dire, enfin, Gobert, il avait fait un premier projet de premier épisode. Ce premier épisode, je me suis débrouillé pour qu'on le transforme en 2 voire 3 épisodes en se disant ça allait trop vite. Ces situations sont tellement fortes qu'il faut les développer, il faut prendre le temps de les laisser respirer, de les faire quasiment en temps réel. Et je pense que dans la série, ça marche vraiment. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de.
Dans cette série-là.
Cette série-là, j'ai l'impression que c'était un bon choix. Et le fait est que je pense pouvoir dire que la deuxième saison de la série. Est moins réussi. Je pense pas du tout que ça soit ni parce que je suis parti, ni parce qu'il y avait moins de talent. C'est que il y avait un problème structurel dans cette série. C'est que au fond, les meilleures cartouches sont tirées au début. Une fois qu'on a posé la situation et qu'on a posé les premières réactions à ça, il y a une espèce d'effet de sidération. Et une fois que cet effet-là est passé, en réalité. On ne sait plus très bien quoi faire parce que, au fond, il arrive des choses. Il y a des histoires d'amour, d'amitié, de trahison, mais au fond, le fait que les personnages, qu'une partie des personnages soient morts, on s'y habitue. Ça n'est plus une donnée centrale. Donc, à un moment, j'ai l'impression que la série, et ça se sent à mon avis dans la deuxième saison, elle n'a plus de carburant. Et il y a une espèce que, comme d'ailleurs on peut l'observer dans une série qui a eu beaucoup de succès, mais qui aussi s'épuise, qui était Lost. La série Lost était une série tout à fait remarquable, mais au bout d'un moment, on a l'impression que les auteurs ne savent plus vraiment quoi raconter et qu'il y a une espèce de fuite en avant, vous voyez, en accumulant de nouvelles énigmes, de nouveaux rebondissements. Et puis, on sent en fait que les auteurs se disent « mais il faut qu'on donne une explication à tout ce qui s'est passé depuis le début » et qu'en réalité, ils n'ont pas l'explication. Et c'est pareil, nous, dans les revenants, on multipliait les énigmes, les trucs dont on se disait « bon, à un moment... » on va expliquer tout ça, mais le problème, c'est qu'on se trouvait dans la situation, je ne sais pas, d'un auteur de roman policier qui raconte son histoire sans savoir depuis le début qui est l'assassin et pourquoi il a commis le crime. Donc c'est très... Ensuite, ça devient très, très difficile de raconter une histoire comme ça. Et on est condamné à une espèce de fuite en avant et de surenchère.
Alors, je voudrais juste, pour revenir à un apport que tu revendiques sur la série, que tu donnes un exemple que je connais, que tu as déjà donné par ailleurs, mais qui est très significatif, qui est le retour de la petite fille la petite fille dont tu parlais, et la réaction de sa mère quand elle voit revenir sa fille morte.
Oui, voilà, c'est le tout début de la série.
Premier épisode, c'est le début de la première.
Dans une famille, comme ça, il y a donc c'est l'histoire des sœurs jumelles. Il y a une fille qui a 14 ans. Là, on comprend où on saute. Qui a eu un terrible deuil dans la famille, que sa sœur est morte dans un accident. Et puis à un moment, c'est se passe à l'aube, quelque chose. La mère descend de sa chambre dans la cuisine et elle trouve sa fille morte qui est en train de se faire un bol de céréales. Et l'astuce, quand même, le truc très fort de la série dès le début, c'est que les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Elle est absolument persuadée qu'elle est dans sa vie normale, sauf que elle se dit que voilà, elle a passé une nuit avec des copains un peu arrosés, tout ça, donc elle a une espèce de petit blanc, elle se rappelle pas trop ce qui s'est passé pendant la nuit, et elle rentre à la maison, au fond, avec l'impression que, enfin, vaut mieux y aller le plus furtivement possible, parce qu'elle se dit qu'elle risque beaucoup de se faire engueuler. Et quand sa mère descend, elle, donc la morte, tout ce qu'elle pense, c'est qu'elle va se faire engueuler par sa mère parce qu'elle est rentrée à l'aube. Et elle ne comprend pas la réaction de sa mère, qui est dans une espèce d'état à la fois d'épouvante et elle est bouleversée. Elle n'a qu'une envie. Elle est à la fois comme quelqu'un qui voit un fantôme et qui a peur, comme quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de prendre dans ses bras cette fille, sa fille qu'elle ne fait que pleurer depuis 2 ans. Enfin, il y a une espèce de mélange d'émotions des deux côtés, auquel vient ensuite s'ajouter la réaction du père, la réaction de l'autre sœur. En fait, on peut tenir, et on s'est aperçu qu'on pouvait tenir un ou deux épisodes rien qu'avec l'espèce de... Bon, il y a d'autres personnages, d'autres lignes narratives, mais rien qu'avec la stupeur et l'espèce d'entrelacs de sensations qui se produit à partir de cette situation. C'est marrant parce qu'on est en train... De là tout de suite, et ça me fait pas du tout de parler de généralité, mais de parler de cuisine de récit. Et en fait, je trouve personnellement, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant et à raconter et à écouter quand des gens me racontent comment ils font des films ou des livres. Il y a vraiment une cuisine, une technique, un artisanat.
Alors là, il y a une chose qui me fait rebondir dans exactement l'exemple que tu viens de donner sur la mère dont on comprend la réaction. La fille dont on comprend la réaction et le spectateur qui est partagé entre les deux points de vue. Parce que la question du point de vue, c'est quelque chose qui est très fort à la fois dans tes livres et à la fois dans tout ce que tu as fait pour le cinéma ou la télévision. On dit souvent que dans un film, l'essentiel, c'est d'avoir un point de vue et de le garder, etc. Et j'ai l'impression que ce qui t'intéresse ou ce qui te stimule, c'est aussi de varier les points de vue ou de jouer avec ça.
Oui, tu as absolument. C'est encore une question. C'est une question centrale, hein, au cinéma, dans les livres. Dans les livres, il y a aussi la question de qui raconte. Oui. Ce qui est différent, ça c'est pas pareil au cinéma, sauf dans les films avec une voix off, mais que j'aime beaucoup, hein, dans certains cas. Je sais que ma tendance naturelle au cinéma et pas seulement dans les livres, c'est le point de vue unique. C'est un personnage à qui on est identifié, à qui s'identifie le spectateur, et au fond, on ne le lâche pas. C'est une chose qui marche assez peu dans les séries où il y a pas mal de personnages et où donc on est amené à avoir... divers points de vue. C'est exactement ce que tu disais à propos des revenants, où tu es à la fois dans le point de vue de la mère, dans le point de vue de la fille. Au fond, dans une série comme ça, il peut y avoir une dizaine de personnages. On épouse les points de vue de chacun des 10, d'une certaine façon. En revanche, moi, pour ma part au cinéma, je sais que j'ai réalisé un film de fiction à ce jour, qui était d'après un livre que j'ai écrit qui s'appelait La Moustache. J'ai fait le film avec Vincent Lindon et Emmanuel De Vos, et c'est un film qui est vraiment un film de point de vue unique au sens le plus strict, c'est-à-dire qu'on est dans le point de vue du personnage que joue Vincent Lindon, mais au point que... C'est d'ailleurs marrant parce que, pardon, je fais un peu des tours, mais c'est... J'espère que vous n'allez pas vous y perdre. Mais quand on réalise un premier film, au fond, il y a une chose qui est... C'est intimidant d'une façon générale, mais on se pose aussi la question de... Il faut fixer des règles parce que... On peut faire tellement de choses, on se demande, mais au fond, pourquoi mettre la caméra à un endroit plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Est-ce que c'est...
Le décor, les accessoires.
Oui, on peut faire un peu n'importe quoi. Donc, au fond, quand on est cinéaste débutant, c'est pas mal d'avoir une règle qui vous astreint à une espèce de rigueur. Et cette règle, c'était qu'on était dans le point de vue de Vincent Lindon. C'est-à-dire que si, par exemple, Emmanuel De Vos, qui joue sa femme, sortait de la pièce et qu'il ne la suivait pas, on ne pouvait pas la voir dans la pièce d'à côté, hors de son regard. Si lui répondait au téléphone, on pouvait entendre l'interlocuteur. Si c'est elle qui répondait au téléphone devant lui, on l'entendait seulement parler et on n'entendait pas son interlocuteur à elle. Voilà, c'était une règle qu'on a... Que j'avais suivi, qui était vraiment une règle de point de vue très stricte et qui correspondait, enfin qui était un moteur pour le film, puisqu'on est entièrement dans la perception du personnage à qui on a accès à rien d'autre qu'à ce qu'il ressent, entend et comprend lui. Donc moi, ma tendance naturelle, c'est d'aller vers un point de vue unique, comme quand j'écris des livres. Mais d'une certaine, le cinéma ou la série. Souvent, ça vous fait sortir de ça. Ça oblige à varier les points de vue. Ce que je n'avais pas fait dans La Moustache, mais qui est vraiment une chose intéressante à faire.
Alors, du coup, on va revenir au livre par le biais de ce point de vue, puisque tu disais que dans un livre, il y a la question du narrateur qui se pose. Or, il y a dans ton œuvre littéraire un personnage qui est là quasiment depuis le début, qui est le narrateur, qui parfois parle à la troisième personne, parfois à la première personne, et qui parle en fait de plus en plus à la première personne. Je voudrais savoir comment c'est venu en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de donner des exemples concrets. À un moment donné, il y a l'adversaire qui est le livre qui raconte un fait divers. Qu'à l'époque, tout le monde connaissait pour en avoir lu des comptes rendus dans la presse. Et évidemment, le Jean-Claude Roman, qui en plus s'appelle Roman, mais bon, est le protagoniste du livre. Mais l'autre protagoniste, c'est toi-même écrivant ce livre. Donc, comment est-ce que c'est venu, ça ?
Alors, c'est venu, d'une certaine façon, naturellement, à partir du moment, me semble-t-il, où on écrit quelque chose qui relève de ce qui, au cinéma, serait du documentaire. Vous voyez, au fond, au cinéma, la frontière entre documentaire et fiction, même si elle peut être brouillée par certains films, malgré tout, il y a quelque chose... Enfin, voilà, on sait que, déjà, dans un film de fiction, ce que la plupart des gens appellent un film tout court, il y a des acteurs qui jouent les personnages, alors qu'un documentaire, a priori, on voit les vrais personnages.
Les scènes sont écrites avant.
Voilà, aussi dans un film de fiction suit un scénario, un documentaire accepte l'imprévu, accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. En tout cas, idéalement, parce que de plus en plus, malheureusement, les documentaires, enfin les gens qui sont, les commissions ou les producteurs de documentaires, ils ont envie d'avoir un scénario, ce qui est, à mon avis, une hérésie absolue. C'est vraiment le contraire de l'esprit du documentaire, d'avoir un scénario préécrit. Bref... À partir du moment où en écrivant, on travaille sur un matériau documentaire.
C'est-à-dire des faits réels.
C'est-à-dire des faits réels, une histoire, un fait divers comme l'affaire Roman. J'ai eu l'impression qu'au fond, je ne pouvais pas raconter l'histoire en prétendant à l'objectivité. Que j'étais bien forcé d'admettre que ce que je racontais n'était que mon point de vue. Si vous voulez, quand vous écrivez une fiction, vous écrivez, mettons, Madame Bovary, c'est vous qui êtes entièrement le maître de ce que vous racontez. C'est-à-dire que vous pouvez dire, Madame Bovary, elle pense que voilà ce qui se passe dans les tréfonds de l'âme et du cœur de Madame Bovary, parce que tout simplement, les tréfonds de l'âme et du cœur de Madame Bovary, c'est vous qui les inventez.
Oui, Madame Bovary, c'est moi.
Madame Bovary, c'est moi. Donc vous êtes Flaubert, vous avez un total accès à Madame Bovary, vous pouvez lui faire penser et dire tout ce que vous voulez. Vous vous trouvez en face de Jean-Claude Roman, personnage réel, qui a tué toute sa famille après avoir menti pendant 20 ans. Vous ne pouvez pas raconter ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Vous pouvez raconter au mieux... Enfin, si, vous pouvez raconter ce qu'il dit, pardon. Si ça a été avéré, si ça... Voilà.
Le Mais procès...
ce qui se passe dans sa tête, vous n'y avez pas accès. Donc, à un moment, vous êtes bien obligé de dire « Voilà ce que moi, je pense, ce que moi, j'imagine qui se passe dans sa tête. » Et d'une façon... Au fond, vous êtes obligé de tenir compte de vous-même. Vous êtes obligé de tenir compte du fait que c'est vous qui racontez l'histoire. Et à un moment... Il me semble que ça devient une exigence d'honnêteté. Alors, pour reprendre un exemple tiré du cinéma, il y avait, et du documentaire, je me souviens qu'il y avait un texte critique très ancien d'une grande figure de la critique qui était André Bazin, qui parlait d'un film documentaire de l'époque, je pense qu'on a dû oublier, et qui, vous voyez, montrait une tribu de Nouvelle-Guinée ou de Papouasie où les types étaient encore, où il y avait encore des cannibales, ou des réducteurs de tête, je sais plus dans le texte, dans le truc dont parlait Bazin. Et il dit, mais si le documentaire fait comme si on montrait les gens pour de bon hors du regard, hors de la présence d'une caméra, et Bazin disait assez drôlement, mais les réducteurs de tête, ils ne sont pas à ce point réducteurs de tête puisqu'ils n'ont pas réduit celle du caméraman. En tout cas, on se dit que si vous voulez montrer, quand vous prétendez montrer des gens dans leur vie quotidienne, leur réalité, vous ne pouvez pas ignorer que cette vie quotidienne et cette réalité sont modifiées par votre présence. Vous pouvez faire semblant que pas, mais malgré tout, l'honnêteté oblige à reconnaître que votre présence change les choses. Et c'est pourquoi, moi, à un moment, je me suis dit que j'étais obligé de reconnaître ça. Quand j'ai fait un film documentaire qui s'appelle Retour à Kotelnitch, qu'on a passé hier, et j'étais très heureux de cette occasion de le passer parce que vraiment j'aime bien ce film. Je me souviens que quand je suis parti tourner le film dans une petite ville en Russie, ma productrice, Anne-Dominique Toussaint, juste avant le départ, m'a dit « Mais au fait, est-ce que tu as l'intention d'être présent à l'image ou pas ?» Et sur le moment... Enfin, je me suis aperçu tout simplement que cette question centrale décisive et tout ça, je ne me l'étais pas posée. Et je me suis retrouvé avec cette question, je répète ce que j'ai dit hier, mais exactement dans la position du capitaine Haddock à qui on demande s'il dort avec la barbe au-dessus ou en dessous de la couverture. Il ne s'était jamais posé la question, mais à partir du moment où il se la pose, il est condamné à une interminable insomnie parce qu'il ne sait pas ce qui est le mieux. Et au fond, moi, je suis arrivé dans ce patelin de Russie en ne sachant pas si, au fond, on allait faire un film qui, pour le dire les choses vite, faisait comme si on n'était pas là, ou un film où on admettait qu'on était là, que j'étais là. Et finalement, on a fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire un film comme un documentaire un peu classique, où on fait comme si les documentaristes n'étaient pas là, et puis très vite, les relations avec les gens de cette petite ville, ce qu'on peut appeler les personnages, ont été suffisamment proches et suffisamment... personnel pour qu'il soit totalement impossible de faire comme si on n'était pas là. Je veux dire, clairement, non seulement moi, mais le caméraman, la preneuse de son, l'interprète, voilà, on faisait partie de l'histoire et donc on a tenu compte de nous-mêmes. Je suis rentré dans le cadre.
Mais alors, dans un livre, là, tu as le choix, en fait. Un livre, tu racontes, ce que tu racontes, Jean-Claude Roman n'était pas filmé par toi, donc l'affaire avait déjà eu lieu, donc tu la racontes. Mais dès la première phrase du livre, tu te mêles en tant que personnage,
oui,
à l'histoire de Jean-Claude Roman. Comment est-ce que c'est arrivé, puisque finalement, avant ça, tu avais déjà mis en scène des personnages réels. Il y avait eu une biographie de Philippe K. Dick, il y avait eu Marie Shelley, Polidori et compagnie dans Bravoure. Donc, mais il n'y avait pas encore Emmanuel Carrère.
Ah, c'est vrai, mais voilà. La différence, c'est que là, je veux dire, Dick, je ne l'ai pas connu. Dick, j'ai, écrit ce livre après sa mort, 10 ans après sa mort. Il était, en ne connaissant pratiquement pas grand monde, personne autour de lui, parce que j'avais fait un petit voyage comme ça de rencontres, de recherches aux États-Unis. Mais finalement, j'ai écrit ça essentiellement à partir de ses livres. Et j'avais l'impression, à partir de ses livres, au fond, d'avoir accès à ce qui se passait dans sa tête. Et au fond, le livre essaye d'être une espèce de voyage dans le cerveau de Philippe K. Dick à partir de ses livres. L'autre livre dont tu parles, qui s'appelle Bravoure, et donc parle de personnages de la grande histoire littéraire qui étaient les poètes Byron, Shelley, Marie Shelley, l'auteur de Frankenstein. Ça, j'ai vraiment pu les traiter comme des personnages de romans. Mais me trouvant face à Jean-Claude Roman, ce criminel vivant, se trouvant en prison, avec lequel j'ai eu une correspondance, des relations personnelles.
Mais tu n'étais pas obligé de faire ça pour le livre, si ?
C'était comme ça que ça m'intéressait de le faire.
Voilà.
Voilà. À partir de là, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas me dérober à la... je ne pouvais pas éviter ma présence dans le livre. J'ai l'impression que c'était une question, une simple question d'honnêteté, quoi, qui consistait à dire je suis partie prenante de cette histoire. Je ne suis pas dans une position de surplomb, dans l'espèce, vous voyez, dans la position de Dieu ou de Sirius ou quelque chose comme ça. Je ne suis que quelqu'un en face de quelqu'un d'autre et je suis bien obligé d'admettre ça. Cela dit, ça m'a pris beaucoup de temps pour l'admettre. Enfin, c'est un livre qui a mis beaucoup de temps à se faire, qui est passé par beaucoup d'étapes, qui a été écrit. D'abord que j'ai écrit à la troisième personne, et dans ce volume, il y a aussi un des premiers chapitres de ce livre, L'Adversaire, tel qu'il avait été dans une version antérieure, c'est-à-dire où je ne suis pas présent, où l'histoire est racontée du point de vue du meilleur ami de Jean-Claude Roman. Mais à un moment, il m'a paru nécessaire pour une raison, enfin à la fois artistique et morale, et de justesse, il m'a paru que c'était nécessaire de consentir à être dedans. Et à partir de là, j'ai commencé, je me suis engagé sur un terrain, dans une forme de récit que j'ai continué pendant à peu près 20 ans.
Mais est-ce que c'est vraiment, au départ, tu t'es posé la question en termes de « est-ce que je vais être honnête avec cette histoire ?» ou est-ce que tu t'es dit « c'est peut-être la clé pour que j'arrive à l'écrire » Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de comment arriver à un projet que je ne sais pas exactement par quel bout prendre ? Et puis, en fait, ça m'aide presque d'une manière technique à écrire. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi ?
Il y a eu un moment, après avoir donc fait des tas de tentatives dans des formes différentes, à la troisième personne, en rentrant, en passant par le point de vue d'autres personnages, tout ça. Et au fond, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me paraissait satisfaisant. Qu'est-ce que ça veut dire que ça vous paraît satisfaisant ? Ça, c'est quelque chose de très mystérieux, qui est la sensation que ce qu'on écrit sonne juste. C'est une impression un peu musique, enfin oui, qui pourrait avoir un musicien. C'est l'impression que, voilà, que les phrases sonnent juste. Et je ne trouvais pas ça. Et il y a eu un moment où, au fond, j'ai désiré abandonner ce livre. Ayant choisi de l'abandonner, ce dont j'ai éprouvé un certain soulagement, je me suis dit, je vais essayer de, juste comme ça m'a beaucoup occupé pendant longtemps, d'écrire pour moi-même une espèce de petit mémo de ce que ça a été dans ma vie. Et j'ai commencé à l'écrire à la première personne, en me disant, je ne suis justement pas en train d'écrire le livre.
Et
commençant à écrire à la première personne, je me suis aperçu que cette espèce de sensation de la note juste, pour la première fois, elle était là. Et que, croyant abandonner le livre, j'avais commencé à l'écrire.
Alors, revenons à ce que tu disais juste avant, c'est que du coup, ça a ouvert pour toi une nouvelle façon d'écrire les livres.
À la fois à la première personne, oui, et sur un matériau documentaire, c'est-à-dire sous une forme qui n'est pas celle de la fiction et qui parle, voilà, d'histoire vraie, comme on dit.
Alors, ce qui est cette fois-ci intéressant, c'est quel choix d'histoire vraie tu vas opérer pour ton prochain projet, que ce soit un livre ou un film. Et on a l'impression justement que dans tes livres suivants, ça a aussi à voir avec le cinéma ou avec le scénario, c'est que tu alternes avec des films où tu, avec des livres où tu te prends toi-même comme matériau de base et puis d'autres. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne où tu prends d'autres personnes. Alors, c'est une alternance voulue ou bien c'est les circonstances ou
En réalité, il me semble que j'ai écrit un seul livre où je suis, dont je suis non seulement, je suis toujours le narrateur des livres, mais il y en a un seul dont je suis le protagoniste et qui est ce qu'on appelle classiquement un livre autobiographique, qui est un livre qui s'appelle Un roman russe et qui est d'une certaine manière, on pourrait dire, une novélisation de ce film documentaire dont je parlais et que j'ai montré hier, Retour à Kotelnitch. Mais autrement, je veux dire, je suis là comme narrateur, témoin, éventuellement interlocuteur, mais le sujet n'est pas moi. C'est-à-dire, ce ne sont pas des livres autobiographiques où, disons, il y a une part d'autobiographie un peu en creux, que ce soit l'adversaire ou bien le livre qui s'appelle « D'autres vies que la mienne » et donc qui est sur plusieurs personnes que j'ai connues, qui se sont dans les... Ensuite, le Limonov, qui est sur un étrange personnage du monde russe contemporain, ou Le Royaume, qui est un livre tout à fait différent, puisque c'est un livre sur les premiers chrétiens et sur les figures de l'apôtre Paul et de l'évangéliste Luc.
Mais avec des chapitres autobiographiques.
Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi, en fait, une différence. Il me semble qu'il y a un peu deux types de... Quand on fait des choses de cet ordre, enfin, qui est sur un matériau documentaire, il y a deux démarches différentes qui sont celles où ça vous arrive à vous et celles vers quoi on va. Si vous voulez, aussi bien l'adversaire que donc le livre sur Jean-Claude Roman que Limonov sont des livres où c'était ma démarche d'aller vers ces personnages. C'est moi qui me suis d'une certaine manière présenté à eux en leur disant « je vais écrire un livre sur vous ». Il y a eu d'autres cas qui étaient d'une part un roman russe, d'autre part d'autres vies que la mienne, où au fond, le livre part de choses qui me sont arrivées ou dont j'ai été témoin sans l'avoir voulu. Et dans le cas du livre d'autres vies que la mienne, au fond, j'ai été témoin d'événements très, très douloureux, très tragiques. D'abord, le tsunami aux Philippines, et puis ensuite, une tragédie privée qui était la mort d'une jeune femme qui était ma belle-sœur. Et la rencontre d'un de ses collègues qui était juge et qui parlait d'elle, qui parlait de leur travail et qui est d'ailleurs devenu un de mes meilleurs amis.
Mais qui livre un texte d'ailleurs dans le livre.
Qui écrit
comment il est devenu héros de roman.
Oui, absolument, grâce à toi. Absolument. Qui s'appelle Étienne Rigal et j'aime beaucoup son texte d'ailleurs. Enfin, où il raconte ça et qui non seulement il est devenu personnage du livre, mais d'une certaine manière il était commanditaire du livre puisque. Il s'est passé une chose, ce qui s'est passé et que je raconte dans ce livre, c'est que donc cette jeune femme qui était ma belle-sœur mais que je connaissais à peine est morte d'un cancer à 32, très jeune, à 35 ans. Le lendemain de sa mort, au fond, moi, j'accompagnais ma compagne qui. C'était pas, je veux dire, je la connaissais à peine, cette jeune femme qui venait de mourir. J'étais une pièce rapportée dans ce deuil familial. Et le lendemain de sa mort, il y a eu un collègue de cette jeune femme qui était juge, nous a convoqué, nous, la famille, chez lui, pour nous parler d'elle. C'était très bizarre, parce que la plupart d'entre nous, moi, je ne le connaissais pas du tout, les autres, au mieux, l'avaient croisé, donc il y avait quelque chose d'assez bizarre à aller chez ce type qu'on connaissait à peine et qui disait « j'ai à vous parler d'elle ». Et pendant deux heures, ce type s'est installé en face de nous et nous a parlé d'elle, de leur amitié qui est dans le point de départ et qu'ils avaient tous les deux été victimes d'un cancer dans leur jeunesse, cancer qui était revenu pour elle et dont elle est morte. Ils étaient tous les deux juges. Ils ont travaillé tous les deux comme juges d'instance au tribunal de Vienne. Ils s'occupaient tous les deux de questions de surendettement, de droit de la consommation, qui a l'air a priori, si vous voulez, d'un droit pas très excitant. C'est pas les assises, c'est pas les grandes plaidoiries. C'est vraiment un droit au ras des pâquerettes. N'empêche que, en fait, c'est extrêmement important. Ça joue un rôle très important dans la vie d'énormément de gens. C'est un droit qui a des conséquences politiques et sociales considérables. Et donc, cet homme, Étienne Rigal, s'est mis à nous raconter tout ça pendant 2 heures. Où il a vraiment pas repris haleine, on lui a pas posé de questions, il a vraiment parlé, et il mélangeait, je trouvais, des choses presque théoriques sur le droit, des choses sur la maladie, des choses sur leur amitié, des choses à la fois très politiques, très privées, très intimes, avec une liberté et une authenticité qui m'ont laissé pantois. Et en l'écoutant, je me disais, mais au fond, si j'arrivais à faire passer dans un livre l'émotion que j'ai éprouvée pendant 2 heures en l'écoutant, eh ben ça serait un livre passionnant. C'est pas possible autrement. Ce que j'éprouvais en l'écoutant était d'une telle force, d'une telle émotion, d'une telle vérité que je n'ai plus qu'une envie, c'est de le transcrire d'une certaine façon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de cette rencontre d'où on est tous sortis quand même un petit peu... Stupéfait, bouleversé. Voilà, on a tous serré la main avant de partir un peu en serrant la mienne, alors qu'il ne m'avait pas du tout marqué qu'il me connaissait comme écrivain. Il m'a dit, réfléchissez à tout ça, c'est peut-être pour vous. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un me passait une commande. Et à partir de là, j'ai dit, bon, bah, ok, je l'ai rappelé en disant, bon, bah, écoutez, on prend rendez-vous, je viens vous voir à Lyon quand vous voulez. Et j'ai commencé à venir le voir régulièrement à Lyon, et c'est à partir de là, donc on est devenus amis, il m'a beaucoup parlé de leur travail de juriste. Au fond, ce qu'il avait dit pendant ces 2 heures, il l'a développé, je l'ai écouté, je l'ai questionné pendant plusieurs mois. Et ça a été une partie de la matière, enfin la matière principale de ce livre. Donc là, c'est vraiment un livre où c'est vraiment le livre qui est venu vers moi. Ça n'a pas été mon mouvement à moi. Et à vrai dire, il n'y a rien de mieux qu'un livre qui vient à vous. Il n'y a rien de mieux. Non seulement il n'y a pas besoin de chercher, mais quand au fond, on est délivré de cette responsabilité du choix, que tout à coup, on est légitimé par d'autres, par une demande. C'était, alors que ce livre, D'autres vies que la mienne, est un livre qui raconte des choses très douloureuses, tout ça, malgré tout, c'est un livre que j'ai écrit dans une grande... j'étais bien en l'écrivant. J'étais bien en l'écrivant. J'avais l'impression d'être à ma place, d'écrire, en me posant pas du tout la question de ma légitimité. Et donc, c'est d'ailleurs sans doute pourquoi c'est le livre que j'ai écrit que j'aime le mieux. Enfin, j'avais l'impression d'être le plus... celui où je tenais la place la plus juste. C'est toujours cette question là dont tu parles depuis le début, celle de la place, celle du point de vue, qui est centrale dans les livres, au cinéma.
C'est intéressant parce que avant d'écrire ce livre, tu disais souvent que le livre de toi que tu préférais, c'était Je suis vivant et vous êtes mort, la biographie de Philip Dick, et qui aurait pu s'appeler D'autres vies que la mienne ou Une autre vie que la mienne. Et comme si d'avoir raconté la biographie de quelqu'un d'autre, te faisait chérir ses œuvres plus...
Oui, certainement. Mais au fond, ce que je me disais, c'est que D'autres vies que la mienne, ça pourrait être un titre générique pour énormément de livres ou de films. Hein. À partir du moment où, que ce soit des personnages réels ou des personnages de fiction, c'est ce qu'on fait quand on écrit des livres. On écrit d'autres vies que la sienne. Et quand on écrit d'autres vies que la sienne, il y a aussi... C'est comme s'il y avait en écho, non pas des vies alternatives, mais comme si c'était des virtualités de soi, comme si c'était quelque chose qui... Je veux dire, c'est terrible à dire, mais c'est comme si, en écrivant l'affaire romance, on s'imaginait, et si... Qu'est-ce que ça aurait pu être ma vie si j'étais devenu un criminel ou si j'étais devenu, comme dans Limonov, une espèce d'aventurier semi-fasciste. C'est des virtualités de soi, malgré tout, qu'on explore.
Alors là j'en viens. Alors j'ai deux questions en fait qui me viennent comme ça en t'écoutant. La première, c'est est-ce que tu développes ce qu'on appelle une déformation professionnelle, qui est que, comme tu es écrivain, dès que tu vois quelque chose qui retient ton attention, ou quelqu'un, ou un film, ou une œuvre, il y a une sorte de machine inconsciente ou, qui se met en route et que tu penses que tu vas l'intégrer peut-être à un livre, où tu te dis ça pourrait être un sujet de livre ou non. Est-ce que ça existe, cette déformation professionnelle ? Ça, première chose. Et puis, deuxième chose, que tu viens de juste mettre la main dessus, ou le doigt dessus, avec ta phrase, c'est-à-dire faire comme si j'étais, me mettre à la place d'eux. Est-ce que c'est un moteur essentiel de ta façon d'écrire pour des personnages ? Alors, d'abord, le côté déformation professionnelle.
Oui, enfin, la déformation professionnelle, je ne sais pas, mais le fait est que quand on écrit ce genre de livre, et je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui tourne des documentaires, il y a une espèce d'antenne qui est dressée. On est toujours un peu aux aguets en se disant, selon l'expression d'Étienne Rigal, enfin, qui lui me disait « c'est peut-être pour vous » et c'est encore mieux quand quelqu'un vous dit « c'est pour vous », mais quelquefois on se dit « oui, enfin, est-ce que c'est pour moi ?» Ce qui n'est pas... ce qui est une chose tout à fait différente de l'intérêt objectif d'une histoire. Je veux dire, il y a des histoires absolument passionnantes, et il y en a énormément. Je veux dire, il suffit de lire le journal, le monde autour de nous est rempli d'histoires passionnantes. Que ça soit une histoire pour soi, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire, ça réclame une espèce de... Il faut qu'il y ait une espèce de coïncidence un peu mystérieuse entre quelque chose du dehors, quelque chose qui vous est extérieur, qui vous est même étranger, qui peut même être le plus éloigné possible, et qui en même temps est un peu suscite un écho assez profond, intime en soi.
Mais il y a aussi des petits détails de la vie où tu te dis, tiens, bah, peut-être que ça peut
résoudre. Bien sûr. Là, évidemment, il y a toutes les choses qu'on peut dire qu'on pourrait intégrer, qui vous viennent à l'esprit, ça, bien sûr. Mais il y a cette question de ce qui fait que quelque chose devient un sujet. Oui. Et c'est une espèce de correspondance entre quelque chose d'extérieur et le plus intime. Et ce faisant, on explore à la fois l'extérieur et on s'explore soi-même, c'est vrai. On a peut-être accès à des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne connaissait pas, et de soi et du monde. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin d'une vraie tension entre les deux, quoi. Le monde tout seul, l'extérieur tout seul ne me suffit pas, et moi-même tout seul, ça ne me suffit pas non plus. Il y a des gens qui sont vraiment uniquement des autobiographes qui peuvent et tout. Moi, je ne saurais pas faire ça.
Et est-ce que l'une des clés de ça, c'est je me mets à sa place ?
Alors, je suis...
Non.
Oui, non, je suis un peu... perplexe ou réservé sur l'expression se mettre à sa place. Oui. Au fond, moi, je crois qu'il vaut mieux... par exemple, dans le cas de l'affaire Roman, je me souviens que quand le livre était paru, je m'étais trouvé dans une émission qui était de télévision avec quelqu'un qui était que j'aimais beaucoup d'ailleurs, qui était Michel Pollack. Je sais, les gens les plus jeunes de cette assistante se rappellent qui était Michel Pollack, qui était à la fois un écrivain, un cinéaste et un excellent animateur de télévision.
Polémiste,
très polémiste, et qui avait une émission qui s'appelait Droit de réponse, qui était une des émissions les plus bordéliques et les plus libres qui ait jamais existé à la télé. Mais cela dit, Pollack, c'était à cette émission, je crois que c'était Apostrophe. Il m'avait dit qu'il avait pris la parole pour dire qu'il détestait mon livre, qu'il le trouvait très mauvais. Je pouvais rien dire. Mais il disait qu'il trouvait que j'avais manqué de courage, que j'aurais dû l'écrire à la première personne. Et quand il voulait dire à la première personne, il voulait dire moi, Jean-Claude Roman. Et là, j'étais en total. Qu'ils me disent que mon livre était mauvais, je peux rien dire.
Son opinion.
Oui, c'est son opinion. J'espère qu'il a tort, mais c'est bon. Quand il me disait ça, j'étais non seulement pas d'accord, mais j'avais l'impression que si j'avais fait ce qu'il me suggérait de faire, j'aurais fait quelque chose de très mal, à la fois moralement et artistiquement. En fait, quelque chose d'un peu obscène, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, il me semble que toute l'histoire de quelqu'un comme Jean-Claude Roman, c'était l'impossibilité d'avoir accès à soi-même, l'impossibilité de dire « je » pour son compte, et que si j'avais dit « je » pour son compte, c'est comme si je lui fermais cette possibilité, et j'ai l'impression que ça aurait été une espèce de... Ouais, de crime moral, que je ne pouvais que dire je pour mon compte face à lui. Et ça me, au fond, ça m'a fait m'interroger sur cette question de se mettre à la place d'eux. Moi, je crois plutôt à me mettre en au fait de me mettre en face d'eux. Et y a un truc que j'aime bien raconter parce que ça m'a frappé sur la question de se mettre à la place. J'ai entendu une fois une petite fille donner une réponse extraordinaire à sa mère. Sa mère, parce qu'elle avait fait, je sais pas, elle s'était mal conduite avec une copine et tout, lui dit mais c'est pas gentil. Tu sais, il faut penser à se mettre à la place des gens. Et la petite fille a répondu d'accord, mais si on se met à leur place, ils vont où les gens? Et je trouve que c'est une grande question. Qu'effectivement, je pense qu'il faut laisser les gens à leur place et occuper la sienne en face d'eux.
D'un autre côté. Oui, quand il y a aussi quelque chose chez toi, tu disais l'objectivité, on peut pas y prétendre, etc. Mais il y a un souci d'équité, c'est-à-dire que de parler de telle chose ou de telle personne et de quand même ne pas évacuer le point de vue de l'adversaire en se mettant à sa place de l'adversaire pour voir si on en revient au double point de vue dont on parlait pour les revenants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui consciemment te...
Je pense que ça correspond aussi à un trait, à une façon de penser, une façon d'être, qui a ses vertus et ses revers, qui est que, pour ma part, j'entre très très facilement dans les vues d'autrui. C'est-à-dire que quand je pense un truc, je suis absolument prêt à penser l'inverse. Si quelqu'un m'y fait une objection...
Oui, dans les dîners où on parle politique.
Oui, par exemple, c'est aussi ce qui me rend difficile d'avoir des opinions très très tranchées sur beaucoup de sujets, notamment politiques. Disons, je ne vais pas jusqu'à certaines positions politiques extrêmes, mais disons, je suis très 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 capable... j'ai une espèce de disposition qui est peut-être justement celle d'un romancier, toi, d'entendre absolument les arguments d'autrui au point que les miens me sont toujours un peu flottants. Quoi. C'est d'une certaine manière le en même temps qu'on prête à notre président de la République. Et j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça. Je veux dire, quoi que je pense qu'en même temps, on peut penser l'inverse. Ce qui est à la fois une limite comme je ne sais pas comme homme d'opinion, comme citoyen, tout ça, mais qui me paraît une bonne disposition comme documentariste.
Tu disais tout à l'heure à quel point c'était important dans un livre que tu racontes à la fois le sujet du livre et à la fois comment le livre a été écrit. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le livre soit ton autoportrait d'écrivain en train d'écrire sur ce sujet. Et ça me rappelle en fait l'Emmanuel Carrère que j'ai connu au départ, qui était un Emmanuel Carrère cinéphile et critique de cinéma, et qui notamment a écrit un texte extraordinaire, très long, qui est reproduit dans le livre dont nous parlions, sur le film de Werner Herzog, Fitzcarraldo. Herzog, qui a été l'objet de ton premier livre publié, c'est-à-dire c'était une monographie de Herzog. Et ce qui était formidable, c'est que tu dis Fitzcarraldo, finalement, c'est pas un film extraordinaire, il y a des scories, c'est moins bien qu'Aguirre, etc. Mais ce qui est intéressant dans Fitzcarraldo, c'est que ce que raconte Herzog à travers le personnage de Fitzcarraldo, c'est l'histoire de ce tournage complètement dément dans lequel Herzog et Fitzcarraldo se regardent comme en miroir. Là, tu avais écrit ce texte quand tu étais très jeune, mais est-ce que ça ne livre pas une clé aussi de quelque chose qui te...
Au fond, moi, j'aime bien qu'il y ait le making-of à l'intérieur du livre. Quoi. Et non, alors j'y pensais à propos de Herzog, il y a un autre dérivé incroyable, c'est le film qu'a fait Herzog sur ses relations avec Klaus Kinski plus tard, qui
Ennemis
s'appelle
intime.
Ennemis intimes, qui est un film absolument ahurissant.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci Bine, merci de votre présence, de votre attention.